vous présentons dans la série d'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junière. Les conspirateurs, mise en scène, production de Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Depuis longtemps, Émile se trouve seul chez lui. Un dîner d'affaires décommandé, la famille a ses occupations. Il est seul, assis à son bureau. Le noir l'entoure. Seule une petite lampe sur le bureau éclaire. Il regarde et ouvre son agenda. Voir ce qu'il a à faire pour le lendemain matin, puis feuillette quelques papiers. Tout est en ordre, prêt. Il reste assis. Le silence de la maison et l'action le ramène à lui-même. Il n'aime pas penser à lui, cela lui donne le cafard. Il n'aime pas. Mais malgré lui, des images du passé lui reviennent et pense avec amertume que le temps a vite passé et qu'il n'a pas vraiment vécu. Cela lui donne le cafard et envie de mourir. Il se souvient, oui, il se souvient que très tôt il avait besoin de solitude pour rêver, il bougeait peu et ne parlait presque pas. Il préférait s'imaginer la vie que la vivre. Il était capable, petit garçon, de passer des heures à la fenêtre à regarder la rue, une petite rue triste où l'on voyait en face de la maison un grand mur gris où étaient derrière des voies de chemin de fer. Dans cette rue, il n'y avait que très peu de passants, et cela suffisait à son imagination. À chaque passant, il leur imaginait une histoire. Cela pouvait l'occuper des heures. Le ciel et ses nuages aussi le faisaient rêver. Il aimait les voir circuler dans le ciel avec leurs formes bizarres. Ses parents habitaient une villa de forme modeste et sans style, au fond d'un petit jardin dans la banlieue lyonnaise. Son père, Ferdinand Ducret, est un homme grand, gros, avec de rares cheveux bruns sur la tête et une petite moustache. C'était un homme autoritaire, avec des principes. Il travaillait dans son entreprise de produits chimiques. Sa mère, Éléonore, était grande, mince, cherchait à tout savoir et régentait dans sa famille. Émile, jusqu'à l'âge de 6 ans, restait avec sa mère à la maison. Pendant que sa mère s'occupait du ménage, lui aimait se promener dans la maison qui avait 9 pièces, meublée avec des meubles Second Empire. Toutes ces enfilades de pièces lui donnaient l'impression d'un monde sans fin. Des jouets, mais préférait jouer avec n'importe quoi, et même avec rien, ou dessiner. La plupart du temps, à cause d'une timidité maladive, il jouait en cachette, car il avait honte et peur qu'on se moque de lui. Il avait peur de son père, car il était très coléreux, et chaque fois qu'il lui demandait de faire quelque chose, par exemple ranger un vase, un livre, aller à la boîte aux lettres ou faire de menus courses, il avait tellement peur de faire mal que son père se mette en colère, lui tire les oreilles, ce qu'il faisait pour en rien, et très souvent qu'il faisait des choses de travers ou cassait facilement à cause de cette peur. Enfant, Il sentait souvent le regard de sa mère posé sur lui, pas un regard d'amour, mais autoritaire, qui surveille. De temps en temps, en dessinant sur la table du salon, sa mère était un peu plus loin à tricoter. Il se dandinait sur sa chaise en se coinçant le zizi pour se procurer du plaisir. Il entendait sa mère lui crier
« Arrête ! C'est dégoûtant ce que tu fais !»
Émile aimait être dans son lit. Avant de s'endormir, il se racontait des histoires pour lui tout seul. C'était des histoires d'aventure dans la jungle ou dans des îles désertes. Il aimait les îles désertes. Là, au moins, il était tranquille. Ses héros ressemblaient aux héros qu'il avait vus dans les hebdomadaires corvaillants que son père lui achetait chaque semaine. Certains de ces personnages lui plaisaient tellement physiquement qu'il aurait aimé les avoir comme amis. Dans les histoires qu'il se racontait, c'était la rencontre du héros avec lui. Et ils avaient tous deux des tas d'aventures extraordinaires. Certains de ces personnages dessinés, surtout des enfants et jeux d'adolescents, il les trouvait tellement beaux, leur visage tellement beau, qu'il rêvait d'eux la nuit. Ses amours imaginaires pour des personnages de papier étaient dus à sa vie solitaire, sans enfants de son âge. Il ne voyait que ses parents et quelques rares adultes qu'il trouvait vieux et laids. Il arrive à l'âge de 6 ans, timide, très replié sur lui-même, rempli de monde imaginaire, ne connaissant rien du monde extérieur à la maison et en ayant peur. Sachant ni lire, ni écrire, à peine quelques notions de calcul, et ayant peur de faire ce qui est défendu.
Moi je m'éveille tête de morue, tu me reverras tête de rat. Mon balcon tête de quoi? Chez moi tête de chamois.
On le mène à l'école. C'est sa mère qui le mène à l'école, une petite école privée catholique. Faut que sa mère lui expliquait que désormais il allait aller à l'école, cette grande bâtisse, toute noire, présentait une dame maigre et triste. Lui disait que c'était son institutrice. Sa mère le quitte. Ce qui lui fait le plus peur, c'est les enfants. Connaît les adultes, n'a jamais fréquenté ces petits êtres qui crient, bougent sans arrêt. Il a peur d'eux, comme il avait peur, comme il aurait peur d'animaux sauvages. Les premiers jours d'école sont terribles pour lui. Il se sent seul au milieu hostile. Lui qui passait ses journées dans un endroit calme et tranquille, au milieu de la surveillance de sa mère, il pouvait malgré tout rêver. Il se trouve d'un coup au milieu de bruits, de courses folles. On lui pose des questions, on lui demande de faire des devoirs, de prier. Il sent que son temps n'est plus à lui. Et puis cet homme, car l'institutrice est tombée malade, qui du haut de son estrade semble constamment le regarder. À chaque fois qu'il lui pose une question, même s'il connaît la réponse, il ne peut parler, obéir. Il bégaye, oublie ce qu'il a à dire. C'est horrible de parler debout devant toute une classe qui vous regarde, écoute et juge. Lui, qui vivait en solitaire, il a l'impression qu'on se moque de lui, le trouve bête, idiot, laid, ne sait comment se mettre.
L'avare de Molière. Alors, Fougerie, toujours en retard? Tirade d'Harpagon, acte 4, scène 7, jusqu'à la ligne 15. Desmousseaux, récite-nous la barre.
Je n'ai pas pris, mademoiselle.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Viens ici.
En plus de ça, la classe est à division.
Enfin, c'est
insensé, vous l'aviez pas à prendre, non? Tout ça, car tantôt, elle parle aux grands, tantôt, elle parle aux petits.
Je ne devais pas être là, je n'ai même pas le texte.
Tu n'as pas le texte? Tiens, tu as 5 minutes, tu écoutes les autres, je t'interroge.
Notre-Dame, bonjour. Alors, le petit Quentin, vous jouez terreur?
Mais ce qu'il y a de plus dur, ce n'est pas la classe, mais les récréations. Dans cette course où les enfants crient, courent constamment, ne sait où se mettre, que faire, connaît personne et est trop timide pour parler à quelqu'un, n'aime pas les jeux violents ou sportifs, alors il reste seul contre le mur, de peur d'être agrippé, pris par les autres.
Mais moi, c'est pendant le cours de géographie. Ça m'agace, le cours de géographie. Quand je fais le cours...
Malgré tout, observe et vois ses camarades.
De l'école laïque obligatoire.
Les trouve dégourdis.
Je pense à exprès pour me provoquer, parce que je suis une femme, quelque chose dans ce genre.
Je vous rassure, c'est pas du tout parce que vous êtes une femme.
Habille.
Moi, chez moi...
connaissent plus de choses que lui.
Alors vous, c'est
et surtout beau.
Son histoire.
Beau de corps, de visage.
J'ai remarqué ça. En plus, je me demande s'il faut...
Lui se sent l'air.
J'étais obligé de les mettre de part.
Très tôt,
une histoire de livre.
Il ne s'est pas aimé.
J'ai observé ça très souvent.
Alors il a honte.
Je crois que c'est une façon
de ce qu'il est.
Une façon de grandir.
N'ose pas regarder les autres en face de peur de remarquer leur moquerie.
Mais c'est comme vous le sentez.
Baisse la tête en marchant.
Presque un problème. Il y avait un enfant qui était
les épaules basses,
plus âgé que les autres, il y avait 2 ans de plus.
Regarde le sol.
Qui se montrait à
un jour, sa mère lui
alors, je l'ai pris à part pendant la récréation.
Il marche comme un bossu. Alors, il se croit encore plus laid et bossu.
Oui, de toute façon, l'école sera mixte l'année prochaine ici.
Là, les problèmes deviennent complètement différents. Mon beau-frère, qui a une classe qui est devenue mixte, m'a expliqué que les gosses pratiquement retombent en enfance. C'est-à-dire, ils sont intimidés, d'autres problèmes.
Ça me met un truc tout à l'heure demain. Va acheter une banane et 2 citrons. Il va, il monte sur un pont, il repart à la maison. Il paye 100 citrons, ses 2 citrons et la banane, il les fait tomber sous le pont. Alors, après... Après, la sœur, elle passe et elle nous a fait ça, tous les totos. J'ai fait tomber mes 2 petits citrons et ma banane. Attends, je vais le chercher. Le curé, il vient et il me va. Fais ça, tous les totos. J'ai fait tomber mes 2 petits citrons et ma banane. Il plonge, il met tous les 2 tout nus. Après, la sœur, elle attrape le zizi du curé. Et les deux citrons à la ça y est, c'est fini.
Les mois, les années passent. À l'école, cela va mieux. On le connaît, il a pris sa place et s'est fait quelques copains. Pas de ceux qu'il aurait aimé, car la beauté l'intimide. Mais des copains gentils, plus calmes que les autres, qui aiment raconter des histoires, lire, rêver. Et le cinéma aussi, comme lui. Un jour, il s'aperçoit qu'il est plus libre à l'école qu'à la maison. Malgré la discipline, les professeurs et les élèves, ce qui fait qu'il se met à aimer l'école. Mais comme il sait que sa mère est jalouse, qu'elle ne supporte pas qu'il aime un autre lieu que celui de la maison, ou d'autres personnes que ses parents, cache le plaisir qu'il a à aller à l'école. Et le temps passe. Sa mère est souvent fatiguée. L'après-midi, elle doit rester souvent au lit. Un jour, son père et sa mère, pendant le repas de midi, lui parlent. Sa mère lui dit « Tu vas avoir, dans peu de temps, un petit frère ou une petite sœur. » Il est surpris. Son père lui dit « Ta mère va à la clinique pour quelques jours. Tu sais comment naissent les enfants ?» À 8 ans, il le sait grâce aux copains d'école. Cela le dégoûte et le fait rigoler. Mais ne l'intéresse pas. Non. C'est le bon Dieu qui met un petit bébé dans le ventre de ta maman. Et elle va à l'hôpital pour le faire enlever. Cela s'appelle une naissance. Est-ce que c'est douloureux? Un peu, oui. Et dangereux? Sa mère croit qu'il a peur pour elle. Elle lui dit « Non, mon chéri, ce n'est pas dangereux. » Demain, lorsqu'il rentre à midi chez lui, sa mère n'est pas là. Son père lui dit « Ta mère est à la clinique. Nous allons vivre tous deux comme des grands. » C'est son père qui a préparé le repas et celui du soir aussi. De la soupe ou de poisson. Il a passé une semaine avec son père, ce qui l'a enchanté, car son père est plus détendu que lorsqu'il est avec sa femme. Puis, le bébé veut arriver. Cela n'a pas beaucoup ému Émile. À 8 ans, se sent loin d'un bébé, surtout si l'enfant est souvent malade. passe. Samedi matin, sans école, son père lui dit, pendant qu'il prend son petit déjeuner, « Je vais te faire visiter mon entreprise. » Ceci surprend Émile, car son père ne parlait jamais de son travail. Et ils vont tous deux en voiture sur les bords du Rhône à Saint-Fond, où se trouve l'entreprise de produits chimiques de la famille. C'est un ensemble de vieilles bâtisses toutes grises avec de hautes cheminées, d'énormes cuves. Pour l'entrée à l'intérieur de l'usine, il faut montrer patte blanche à un gardien en uniforme qui manœuvre une barrière. La cour est un immense parking pour les camions. Un immeuble de 2 étages, plus clair que les autres, avec un perron et quelques pots de fleurs. La voiture va s'arrêter devant le perron. Le père sort de voiture et fait sortir le fils. « Je vais te montrer mon bureau. » Et ils entrent à l'intérieur du bâtiment. Où se trouve une banquette d'accueil et plusieurs bureaux vitrés où l'on voit des secrétaires ou des hommes assis à leur bureau. Chaque fois que quelqu'un passe à côté d'eux, on les salue. Au 2e étage, au fond d'un couloir, il va ouvrir une porte matelassée. C'est un grand bureau empire avec baies vitrées et tapis. Tu vois, c'est ici que je travaille. Il lui montre son bureau, téléphone, interphone, dossier, bibliothèque, bar, coffre. Plus tard, toi aussi, lorsque tu me succéderas, tu travailleras là. Mais avant, il te faudra beaucoup travailler à l'école et faire des études d'ingénieur chimiste. Viens, je vais te présenter l'usine. Et il lui montre l'usine. Un immense atelier sale, bruyant, qui sentent de drôles d'odeurs, où l'on mélange de drôles de choses dans des chaudrons, que l'on fait bouillir de la bile de porc, du foie de vache, du sang de cheval, de l'or, tout ça pour faire des médicaments. Ça sent très fort, mauvais, il fait très chaud dans les ateliers, les ouvriers sont torse nus. Toutes ces odeurs et choses visqueuses écœurent Émile. Il y a aussi les ateliers de dragification ou mise en ampoule des produits et mise en boîte. Cela est fait par des femmes qui travaillent à la chaîne, habillées d'une blouse blanche et de bonnets qui protègent les cheveux des machines. Allô? Alors, après la visite, son père lui dit dans la voiture qui le ramène à la maison,
« Tu vois, ce sera passionnant de s'occuper de tout ça. Tu vas adorer comme moi. Alors, travaille bien à l'école. Travaille à l'école. »
Lui n'ose pas dire, à son père que ça ne l'intéresse pas du tout. Pas du tout. Son rêve, c'est de faire du cinéma ou d'écrire. Il a peur que son père se moque de lui. Alors il ne dit rien. Qu'il est couché dans sa chambre, il entend son père parler à sa mère devant la porte de sa chambre.
« Je le trouve pas normal. Il est en retard pour son âge. Tu as vu ? Comme il joue tout seul à se raconter des histoires, il passe des heures à ne rien faire. Il ne s'occupe pas de ce que les autres de son âge se passionnent. Il n'aime pas le sport, à peur de courir. Il passe son temps à écrire. Ou lire, se passionne pour le cinéma. Et tu as vu comme il se dandine sur sa chaise? Non, ce n'est pas normal. Et puis, il est trop en retard à l'école. Ce qui m'énerve, c'est qu'il n'est absolument pas attiré par ce qui attire d'habitude les garçons, les filles. Enfin, tu vois.
Je t'en prie, Ferdinand.
Quoi ? C'est la vie.
À force d'entendre dire qu'il n'est pas normal, il finit par le croire. Cela l'attriste, mais il sait qu'il n'est pas comme les autres. Et quelque chose lui dit qu'il va en souffrir. Est-ce de sa faute ? S'il n'aime pas ce que les autres aiment et que ce qu'il aime n'intéresse personne? Oui, c'est vrai, les filles ne l'intéressent absolument pas. Il n'est même pas curieux de savoir comment elles sont. Mais, est attiré par un beau visage d'un de ses camarades et quelquefois, sans savoir pourquoi, mort d'envie de le toucher et même de le connaître intimement, mais il n'y peut rien. Cela lui vient comme cela. Bien sûr, il n'en parle pas et le cache, comme il cache aussi la plupart de ses joies. De toute façon, à qui cela pourrait intéresser, qu'il a aimé tel passage d'un livre ou un film à cause de l'esthétique de ces images? Personne ne comprendrait ce qu'il voudrait dire. Alors, il vaut mieux se taire et cacher ce que l'on aime, ses goûts. Juste dire quelques banalités à ses copains et c'est tout. Oui, il n'est pas comme les autres et se croit moins bien que les autres. Un pauvre type perdu dans le monde. Quelquefois, il pense qu'il est un peu arriéré et qu'il lui manque une cause. Et c'est pour cela que la plupart du temps, il se tait pour cacher sa différence, sa tare, sa débilité. Thank you. le temps passe. L'adolescence est là, et c'est dur l'adolescence pour un jeune qui se trouve normal, mais c'est encore plus dur pour un jeune qui se trouve débile. De ses désirs, il s'émancipe de sa famille.
Oui, en vérité,
car il a des désirs.
Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas de vie en vous.
Qu'il accapare constamment, cela le rend malheureux et l'énerve. Il ne peut les assouvir, avoir envie de quelque chose que l'on voit constamment et que l'on ne peut avoir, c'est terrible. Il est attiré par ses camarades de lycée qu'il trouve peu intelligents. J'aimerais être comme eux, être leur ami, les toucher, sentir leur corps. La nuit, dans son lit, il se masturbe en pensant à eux. Bien sûr, il a honte, il n'ose pas leur parler. Et se dit anormal, qu'il doit être le seul à être comme cela, ce qui le rend encore plus secret, alors qu'il passe des heures à se promener seul en rêvant à un ami idéal.
Sa mère était rempailleuse.
Ne riez pas bêtement. La mère de Peggy était une femme très méritante.
Et vous, monsieur Renaud, savez-vous quelque chose sur Champé?
Il revient du lycée, il passe par le parc de la Tête d'Or. Nous sommes en mai, il fait chaud, le ciel est bleu. Émile, dans sa gabardine marine, a très chaud. Mais il ne veut pas l'enlever, car, comme il se croit trop maigre et mal foutu, il se dit qu'elle cache son corps. Il marche comme d'habitude, en rêvant. Qu'il ait un autre, qu'il a un ami à qui parler. Il marche, la tête baissée, comme à son habitude. Tu as du feu? Il sursaute et voit devant lui un jeune homme de 17 ans, de taille moyenne, mince, un visage délicieux, des cheveux bruns qui ondulent. Il porte aussi une gabardine marine et un petit cartable en cuir noir à la main, comme Émile. Émile sursaute, il rougit, il fait non de la tête, s'éloigne la gorge serrée, car il trouve le jeune homme très beau, mais ne peut s'empêcher de se retourner. Le jeune homme le voit. Il sourit et va vers lui. La tête en feu, Émile le voit s'approcher de lui, mais il ne se sauve pas. Tu ne fumes pas? Non? Je vais arrêter moi aussi. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je fume. Sans doute pour faire comme tout le monde. Tu vas par là? Oui. Et il marche. Émile se dit, mon Dieu, faites en sorte à ce qu'on en devienne amis. Oh! que je ne le désire pas surtout. Et surtout, que je puisse cacher ce que je désire. Moi, c'est Patrick. Et toi, Émile, tu es du lycée?
Oui.
Moi, je suis de nulle part. Je viens tout juste d'arriver à Lyon. Depuis que je suis né, je passe mon temps à voyager. Mon père était dans la diplomatie. Ils ont fait toutes les ambassades d'Europe et d'Amérique. Une dernière ambassade a été le Vatican. Maintenant, il est à la retraite. Alors, nous sommes retournés chez ma mère. Et pour combien de temps? Il a toujours la bougeotte. Tu sais, c'est pas une vie, la vie de nomade. C'est pas drôle du tout, même. On change constamment d'école. On peut pas se faire d'amis. Apprendre très vite les langues. Ne pas avoir vraiment de chambre à soi. Et tout, quoi. Et toi?
Moi, j'ai toujours vécu ici. Mais j'ai souvent rêvé de partir.
Tu dois avoir des tas d'amis.
Émile Rougier dit.
Non.
Tu n'aimerais pas en avoir?
C'est pas cela, mais l'on me trouve spécial. Pas comme les autres. Je ne les intéresse pas. Parce que je n'aime pas les mêmes choses qu'eux.
Quoi, par exemple?
Le cinéma, les livres.
C'est bien ça. Moi, je te trouve bien.
Émile est arrivé devant son immeuble.
Je suis arrivé chez moi.
Mais c'est avenue Foch, un peu plus loin.
On se revoit?
Oui.
Je ne sais pas.
Dimanche, je ne pourrai pas.
Pourquoi?
Mes parents.
Essaye.
Donne-moi ton numéro et je te téléphonerai pour qu'on se donne rendez-vous.
Et puis, il lui donne une carte de visite de son père.
Et il se quitte.
Émile est heureux. Il a enfin un ami, un vrai, enfin il le croit, et beau.
Ce n'est pas possible qu'il m'accepte, qu'il veuille de moi. Il est tellement bien, tellement bien.
Chez lui, dans sa chambre, il ne pense qu'à cela. J'aimerais avoir une photo de lui, pouvoir le voir constamment. Et puis il est bien, issu d'une grande famille. Il a tout pour plaire, tout.
Pour le dîner, lorsqu'il retrouve sa famille, il se dit que jamais il ne pourra la lui présenter et lui, jamais il ne pourra leur parler de lui.
De toute façon, personne ne se soucie de ce que je préfère.
Fais. Du moment que je suis bien alors, pour les repas, poursuis les études qu'ils veulent et que je ne leur pose pas de questions. C'est ce qu'ils souhaitent.
Thank you.
Depuis qu'il est enfant, il ne leur a jamais parlé d'amis ni amené à la maison. Et cela leur paraît normal que leur fils n'ait pas d'amis. Émile pense même que s'il savait qu'il a des amis, cela ferait des scènes terribles. On lui dirait qu'il préfère des inconnus à la famille, qu'il ne les aime pas. Alors, il vaut mieux se taire, manger sa soupe en silence, puisque l'on ne peut parler de ce que l'on aime. D'ailleurs, personne ne parle dans cette famille. Le père à la maison passe son temps à lire, la mère à ranger, et le frère, qui ne semble pas bien normal, a des crises de fureur pour exprimer ses désirs, qui sont pour la plupart du temps des besoins de nourriture. Le téléphone a sonné, le père se lève pour aller décrocher à son bureau. Il parle suffisamment fort pour qu'on puisse l'entendre de la salle à manger, car il est un peu sourd.
Allô ? Quoi ? Qui ? Non, il n'est pas là.
Et il retourne à la salle à manger.
C'était un jeune qui demandait à parler, Émile. J'ai dit qu'il n'était pas là.
Émile est rouge de honte. Il a les larmes aux yeux et se dit qu'à cause de son père, il ne reverra plus Patrick.
Pourquoi tu fais ça?
Parce que je ne veux pas que tu parles à des inconnus.
Mais c'était pas un inconnu.
Et qui était-ce?
Dit le père furieux.
Un ami.
Quoi? Quel ami?
Patrick.
Comment?
Je ne sais pas.
Tu l'as rencontré où, ce Patrick?
Dehors. Émile a la tête qui tourne.
Tu vois, tu veux fréquenter le premier va-nu-pied.
Ce n'est pas le premier va-nu-pied. Il est très bonne famille.
Oh, ça va. Arrête avec tes mensonges et mange ta soupe.
Émile se tait et se dit que désormais, il faudra tout cacher à son père. Il passe une soirée et une nuit terribles en se disant qu'il ne reverra plus jamais son ami. Le lendemain après-midi, à la sortie du lycée, il voit Patrick qui accourt vers lui. Ça fait une heure que je t'attends. Je ne savais pas à quelle heure tu sortais. Émile est surpris et heureux. Il n'aurait jamais cru que Patrick pût l'attendre. Et en même temps, il est fier qu'on le voie avec ce beau garçon. Les autres ont l'air fade à côté de lui. Patrick lui dit, on marche au parc. Oui.
Thank you.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les Conspirateurs. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.